À 13h et presque 30 minutes sur France Inter, c'est la marge de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Alain, vous évoquiez les risques de l'intelligence artificielle telle qu'on cherche à les mesurer aux États-Unis et les risques liés à l'investigation des données quand il s'agit de terrorisme, ça va être un de nos thèmes.
Bonjour chers écouteurs.
Le Patriot Act, sécurité, liberté aux États-Unis.
Quoi que fassent les autorités, ça me va. Je me sens libre, je n'ai rien à cacher et le gouvernement veille sur nous.
Il y a des choses qu'il faut faire, même au prix de ce que certains pourraient appeler de la discrimination raciale. On doit le faire. Le gouvernement doit assurer notre sécurité.
C'était après le 11 septembre, dans les années 1970, après la surveillance illégale du siège du Parti démocrate, l'immeuble du Watergate. Une distinction étanche était établie. Le climat était autre. L'écoute des puissances étrangères et de leurs agents, c'était une chose. Mais les dispositions de la loi étaient beaucoup plus strictes quand il s'agissait des affaires intérieures. Cependant, dès les années 1990, le balancier s'inverse. Attentat contre le World Trade Center, question sur les ambiguïtés de certains citoyens américains, grand bond en avant de la technologie informatique. Vous direz aujourd'hui que l'angélisme n'était déjà plus de mise, puis est venu le 11 septembre. En moins de deux mois était mis au point le Patriot Act accepté par une grande majorité du Congrès. L'utilisation des outils et des procédures de surveillance destinées aux affaires extérieures est permise de facto dans les affaires intérieures. La garantie d'un certain secret dont pouvaient s'en tirer les citoyens passe du côté du pouvoir. Depuis, le Patriot Act a été renouvelé deux fois et révisé. Il reste l'objet de sondages favorables. Pourtant, même dans les circonstances présentes, il ne parvient pas à devenir une référence en France ou jusque dans les rangs du Front National. Il demeure considéré comme un repoussoir.
La marge de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Stephen Ekovitch, bonjour.
Bonjour.
Ils sont rares, les historiens des États-Unis à Paris, qui sont en même temps américains.
Voilà.
Vous enseignez en face.
Voilà.
À l'université américaine de Paris, où on ne craint pas que moins d'étudiants viennent parce que Paris n'est
toujours
plus la capitale de la sécurité.
Voilà.
Et avec vous, qui avez travaillé un moment à l'Institut d'études en haute défense nationale.
Voilà, j'étais participant de l'Institut des hautes études de défense nationale, 52e session. Voilà.
Donc vous êtes expert aussi pour les choses françaises.
Voilà. Hein.
Nous allons nous placer aujourd'hui, à la différence de ce que je disais dans le chapeau, dans une perspective plus longue. Il faut peut-être d'abord, Stephen Ekovitch, que vous rappeliez que dans la première constitution écrite au monde, les libertés fondamentales ont été définies par les pères fondateurs. On connaît le premier, le quatrième, le sixième amendement.
Il faut peut-être dire ici que ces amendements étaient des amendements au texte qui était rédigé par les constituants. Donc déjà, on voit que les Américains de l'époque voulaient assurer dans les textes la protection des droits individuels. Donc déjà, dans la création de la République, on s'est soucié de ces protections-là.
La liberté d'expression, premier amendement, le secret de la vie privée, quatrième amendement, le droit des citoyens à l'information dans les enquêtes dont ils font l'objet, sixième amendement. Mais ça, c'était la conséquence de l'habeas corpus qui était inscrit dans la tradition britannique depuis un siècle avant l'indépendance américaine.
Même plus, ça remonte jusqu'au Moyen-Âge.
Oui.
Donc le droit de savoir de quoi on est accusé. Habeas corpus, c'est pour prévenir en fait la détention illégale.
Enfin, voilà. Excessive.
Excessive ou arbitraire. Voilà.
Ça, c'est pour temps de paix, disent les esprits pragmatique, mais en temps de guerre. Alors je vous propose qu'avant de venir aux contemporains, on prenne deux ou trois moments de l'histoire. Des États désunis, la guerre de sécession en 1863-1865. Même les meilleurs grands ouvrages ne peuvent pas rester intacts.
Regardez-moi ces courageux garçons du pont de Langston. Deux assauts par jour.
Deux assauts par jour ?
Ouais. Les sudistes considèrent que ce pont est la clé de la victoire. Ce ridicule petit pont. une chiure de mouche sur les cartes de l'état-major. Et ils ont décidé en haut lieu qu'il fallait prendre cette chiure de mouche. Même si on devait tous y penser. Sinon, la clé de la victoire, elle restera au clou. Et si c'était que ça? Mais ce pont, ils le veulent intact. Et les esclavagistes également. On le veut intact et eux aussi. Alors, ça cogne dur. Ça tombe comme s'il en pleuvait. Mais le pont, lui, restera debout.
Enfin, le pont restera debout, mais l'habeas corpus, il va sauter le sixième amendement pendant la guerre de sécession.
Exact. Au tout début de la guerre, quand la capitale même de Washington a été menacée et quand le Congrès n'était pas en session, Abraham Lincoln a en effet supprimé habeas corpus, justement pour avoir la possibilité de détenir des suspects d'une façon arbitraire. C'était après que le Congrès a réconforter cette décision exécutive. Mais là, déjà, on commence à voir que dans l'histoire américaine, chaque fois que la République était en danger, il y avait une peur, une colère. Et là, il y avait toujours tendance à adopter des lois sévères, avec l'appui de la population.
Et pendant la guerre de sécession, Lincoln instaure la journée du drapeau. Les drapeaux vont être installés plus tard dans toutes les écoles. Vous avez, petit enfant, juré fidélité à la République
tous les matins,
indivisible.
Tous les matins.
Et c'est pendant la Première Guerre mondiale que le jour du drapeau est absolument officialisé. Le président Wilson, pendant la Première Guerre mondiale, est-ce qu'il ébrèche telle ou telle des libertés fondamentales pendant tel ou tel moment?
Absolument. Encore une fois, les républiques se sont en danger. Wilson, et avec bien évidemment l'aval du Congrès, vote le Espionage Act, qui est prolongé plus tard dans le Sedition Act, qui en effet supprime certaines libertés d'expression aux États-Unis, qui traque ceux qui sont vus comme un danger à la République, qui veut éventuellement renverser le gouvernement américain. Mais comme toujours dans des moments de danger à la République, ces lois vont trop loin. Ces deux lois de 1917 ont été mises à terme en 1920. Encore une fois, ce sont des lois d'exception, mais avec une date limite.
J'entends bien, Stephen Ekovitch, mais en même temps que vous tenez des propos rassurants, vous ne nous avez pas dit qui était visé. Des noms, ou des courants, des tendances.
Dans l'ensemble, c'était les Allemands, la population allemande, américaine, et plutôt la gauche, donc les bolcheviques de l'époque. Cette loi a été employée plutôt contre les subversifs comme ils étaient perçus à l'époque. Voilà. En effet, par exemple, un très grand socialiste, Eugene Debs, qui était le président du Parti socialiste, et le Parti socialiste à l'époque était important aux États-Unis, a été aussi mis en prison en fonction de ces deux lois-là.
Oui, vous nous dites que les choses sont révisées ensuite dans un sens plus libéral, mais des esprits pragmatiques veille. On a sorti, sous la signature de Clint Eastwood, récemment, c'est pas par hasard que ça a été fait récemment, un film consacré à Hoover, et notamment à ses débuts très peu connus, vers 1920, quand des autorités judiciaires ou politiques américaines sont menacées par des attentats d'extrême gauche. Le jeune Hoover décide de lutter contre les ennemis de la nation.
Mais en 1920, comment aurais-je pu nous protéger de quiconque? Avant mon arrivée au bureau, nous étions impuissants. Nous avions quelques lois fédérales, pas le droit de porter d'armes à feu, et le Congrès trouvait ça très bien. Les criminels étaient en liberté, mais il n'y avait pas de loi interdisant de les suivre à la trace. Alors, j'ai pris une décision personnelle. J'ai compilé les fiches de plus de 5000 individus et j'ai appelé le seul ministère de Washington qui ait conservé une parcelle de pouvoir non appliqué.
C'était le ministère du Travail? Le pouvoir de déporter, monsieur?
Mais je n'ai déporté que ceux qui entraient dans deux cases. Il fallait qu'ils soient étrangers et qu'ils cherchent à nuire à notre pays.
Et le ministère a coopéré avec vous?
Bien sûr que non. Personne ne partage son pouvoir sans y être contraint à Washington.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de loi vous permettant d'obtenir un mandat pour l'arrestation d'un clandestin, quand bien même j'ai certifié qu'il était soumis à la déportation?
En l'absence de preuves, nous devons respecter le processus légal.
Le processus légal? Que faites-vous de la menace contre notre pays?
Il y a une possible menace contre notre pays.
Possible.
Mais... Bien. Il y a une menace contre notre pays. Mais s'il n'y a pas de preuve d'infraction, il n'y a pas de motif à la déportation.
C'est ce que nous allons voir.
Alors l'éloignement, l'isolement, le renvoi, la déportation pour des éléments étrangers.
Les éléments étrangers qui étaient aussi une autre façon de dire les étrangers de gauche, d'extrême gauche, de bolcheviques à l'époque. Hoover, le jeune avocat, a commencé sa carrière sous le Attorney General Palmer. Attorney General Palmer voulait avoir, après 1920, une loi semblable à ces espionnages et ces Sedition Act pour justement traquer,
de la guerre de 14, oui.
traquer ces éléments dangereux à la survie de la République. Donc là, encore une fois, on voit que malgré cette peur, cette colère, après 1920, la loi n'était pas renouvelée.
Ce qui provoquait la colère de Hoover.
Comme toujours, après cette fièvre de colère et de haine, les
je
Américains deviennent un peu
ce
plus
que vous
sobres.
Allez vous dire.
Voilà.
Oui, enfin, je note quand même que sous le jeune Hoover, on était passé du mode de la réaction. On surveille et on punit quelqu'un qui a agi au mode préventif, au mode de la prévention. Après que vous nous avez tenu ces propos constamment rassurants, la guerre de 40, dès 1940, Roosevelt prend des mesures.
Aussi, c'était le Alien Registration Act qui aussi interdisait tout agissement visant à renverser le gouvernement des États-Unis, mais aussi à supprimer, à limiter un certain droit d'expression. Là encore, en 40, la République se sentait en danger. Une loi, on peut dire, excessive a été adoptée. Mais après, il y avait des raisons de réel politique qui sont intervenues parce que Roosevelt avait besoin de Staline. Et qui était communiste. Donc, cette loi était moins mise en application justement pour ces raisons-là. Mais encore une fois, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains se sentaient un peu plus protégés, encore une fois, cet état de droit américain et les valeurs républicaines profondes américaines sont pris le devant et les lois étaient terminées ou modifiées.
Si je comprends bien, vous tirez de tous ces épisodes une leçon, il y a des systèmes de balancement, check and controls.
Il y a une fièvre qui monte, le public américain accepte des lois, on peut dire excessives, et avec un peu de distance, avec un plus de sobriété, on se rend compte que certaines dispositions de ces lois sont anticonstitutionnelles ou mettent en danger les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques.
Alors maintenant, on va en venir, si vous le voulez bien, à la question du Patriot Act, qui a été promulgué en moins de 7 semaines avec approbation massive du Congrès, au lendemain du 11 septembre. Jusqu'ici, on avait parlé de la manière dont les services pouvaient réagir, de la manière dont les services pouvaient prévenir. Peut-être le Patriot Act, est-ce une volonté d'anticiper sur ce qui va advenir? Avant qu'on ne le présente, histoire de vous échauffer la bile, Stephen Ekovitch, je vous propose d'écouter un groupe underground de Chicago qui pratique un rap dont vous allez apprécier la finesse de langage. Ces messieurs ne veulent pas être ramenés, enveloppés dans un drapeau, le drapeau auquel vous avez juré fidélité. Baiser le contingent, baiser la guerre, baiser le Patriot Act.
Sorry, am I being out of line? Whoa, whoa, course. When the powers apply, lie as a matter of course. Well, then we'll live again. But the wicked meet the end. The father kept you safe, though you didn't say it then. Tell you be straight, even though the rope bend. Now protect your soul, stay true to the end. However, the wicked with the fluid in the pen. I shut the window on the devil's right hand. I spun the record till the table can't stand. Children in the alley, eating up the master plan. The devils used to rock the white sheet to hide their sin. They engineer elections, telling us to count again. Stop the count, start a war before the count end. Meanwhile, I'm scratching hard enough to break the damn skin. Wondering if the God they claiming came down again. He get crucified the same and broadcast on television. Erection was a pain and blame, made religion. The local walk among them and they still wouldn't listen.
list. And now, don't bring my body home draped in a flag. Fuck a draft, fuck a war, fuck a patriot act. Sorry, am I being out of line? Whoa, of course. When the powers up high, lie as a matter of course.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Of
course. Avec Stephen Ekovitch qui enseigne l'histoire politique américaine de l'autre côté de la Seine. Vous voyez la statue de la liberté, c'est un peu à gauche, dans le 7e arrondissement, le siège de l'Université américaine de Paris qui existe depuis une bonne cinquantaine d'années. Venons-en au contenu du Patriot Act.
Avec ces rappeurs, on voit que les critiques aux États-Unis peuvent aussi être virulentes et même vulgaires. Donc...
Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme. Suit un texte qui s'organise en 9 titres.
Oui, les 9 titres comportent sur l'immigration, le dédommagement des victimes d'ailleurs aussi, le traitement des données, l'accessibilité des données aux services de renseignement et à la justice. Et aussi, aux États-Unis, cette loi effaçait la distinction juridique entre les enquêtes effectuées par les services de renseignement extérieurs et les agences fédérales responsables des enquêtes criminelles. Donc, c'était un mur très, très étanche aux États-Unis. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on sait maintenant que le 11 septembre était une réussite, c'est parce que le FBI ne voulait pas partager certaines informations avec le CIA. Donc, en fonction de cette leçon apprise, cette mur de séparation a été réduite.
Quand on dit qu'il y a des failles, c'est au fond qu'il manque des liaisons entre les services. Il y a aussi un titre qui parle des perquisitions secrètes, des saisies secrètes de documents. Mais arrêtons-nous au titre 5, les données téléphoniques et informatiques, vous en disiez un mot. Maintenant, avec un courrier de sécurité nationale délivré par des responsables d'agences de sécurité nationale, sans mandat ni contrôle judiciaire, des précisions, des données peuvent être exigées des fournisseurs et opérateurs.
Et interdiction pour ceux qui étaient sous enquête de révéler qu'ils étaient sous enquête. Mais il faut dire que cette disposition a été changée, modifiée, justement parce qu'il y avait décision des cours fédérales et la Cour suprême qui estimait que...
Oui, on va parler des révisions dans un instant, mais continuons à voir le corps du texte.
Dans la version originale, encore une fois, ce texte est allé loin.
Imaginons que vous soyez soupçonné et que vous entriez en contact avec moi, qui suis une tierce personne, qui n'ai absolument rien à voir dans les activités que vous pouvez mener avec d'autres suspects. Moi aussi, je peux être
Si vous êtes en contact,
investigué.
Si vous êtes, selon cette loi, si vous êtes en contact avec quelqu'un soupçonné du terrorisme, en effet, vous pouvez aussi être un cible de cette loi.
Oui. Vous allez nous parler ensuite de la manière dont l'opinion américaine réagit dans un premier temps.
Oui, au départ, comme tout le temps, l'opinion publique est derrière. On a entendu avec les passages que vous avez diffusés.
En exergue de l'émission.
Voilà. Et donc les Américains sont prêts à sacrifier une certaine liberté pour justement être rassurés, être protégés par leur gouvernement. Mais encore une fois, c'est souvent cette réaction est faite dans la fièvre de la colère et de la peur. Encore une fois, dès que la fièvre tombe, dès que nous avons un peu de distance sur les événements, là, avec un peu de sobriété, je dirais, républicaine, on se rend compte que certaines dispositions doivent être modifiées. Ils sont souvent modifiés par les législateurs, parce que la législation est souvent menacée par des décisions de la justice. Donc on a vu que dans le renouvellement de cette loi en 2006, le législateur, en effet, a apporté des modifications importantes en fonction d'essais.
Mais le législateur intervient parce que des citoyens ou des associations privées portent des cas devant des juges. Et on va parler ici de l'attitude de tel ou tel juge de district, de simple juge de district. Alors, celui du district sud de New York, 2004, il conteste la possibilité que le courrier de sécurité nationale puisse être envoyé sans mandat. District du Michigan, 2006, contestation du principe des écoutes téléphoniques sans mandat, et ainsi de suite. Alors, les affaires peuvent arriver à la Cour suprême dans ce cas-là.
ils peuvent, le système chez nous, c'est qu'il faut un cas justiciable pour arriver jusqu'à la Cour suprême. Mais souvent, le législateur est alerté déjà par les décisions de ces cours de district. Donc le législateur ne veut pas, la Cour suprême non plus d'ailleurs, le législateur ne veut pas qu'un cas en justice va jusqu'à la Cour suprême. Donc pour prévenir une telle décision, ils réagissent avant que ce cas arrive aux plus hautes instances de contrôle de constitutionnalité chez nous, qui est la Cour suprême.
Les révisions sont imposées ainsi, les reconductions ne sont pas toujours si faciles. Vous évoquiez celle de 2006. Alors, elle est intervenue alors que le président Bush Jr. avait été convaincu d'avoir été bien au-delà du Patriot Act dans un certain nombre de ses ordres et décrets secrets.
Encore une fois, dès que les secrets sont décelés, et si on estime qu'en effet, les limites de la loi ont été dépassées, là, il y a réaction. Ça aussi, c'est le devoir des journalistes vigilants pour protéger justement ces valeurs républicaines quand ils sont mis en danger par une application d'une loi qui va au-delà même des limites de ces lois, qui sont elles-mêmes, ces lois, assez permissibles.
Ce qui s'est passé à Guantanamo et qui a provoqué beaucoup de difficultés pour le président Bush, que son successeur n'a pas réussi à résoudre, c'est dans la droite ligne du Patriot Act, d'une certaine attitude, mais ce n'est pas dans le texte.
Non, parce qu'il y avait beaucoup de lois qui précédaient le Patriot Act, hein, qui encadrent tout système de renseignement, de détention arbitraire. Ces prisonniers, justement, sont à Guantanamo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un État américain où la législation ou la loi fédérale est applicable. Et d'ailleurs, c'était à partir d'une décision de la guerre de sécession, lors de l'occupation du Sud par le Nord, ex parte Milligan, où le gouvernement fédéral américain se donnait le droit d'agir d'une façon arbitraire contre les sudistes en rébellion à l'époque. Donc on a pris cette loi de cette époque-là et on l'a appliquée à Guantanamo.
Est-ce qu'il y a des débats sur le coût du Patriot Act? Les républicains, vous n'êtes pas républicain, vous, Stephen Lukovic.
Ni démocrate, ni républicain.
Les républicains disent l'État-providence, les dépenses sociales cannibalisent les dépenses régaliennes et par exemple les dépenses de sécurité.
Moi, j'ai fait le calcul de l'argent dépensé par les États-Unis, par le gouvernement, pour assurer la sécurité des États-Unis. Ça comprend le budget militaire, le budget de Homeland Security, le budget des renseignements. Et on arrive, grosso modo, à 1 000 milliards de dollars, $1 trillion. Mais qui représente, c'est beaucoup d'argent, mais c'est un pays riche, parce que cette trillion dollars, cette 1 000 milliards de dollars, représente une raison pas plus que 6,5% de la richesse des États-Unis.
Alors, vous êtes habitué, Stephen Lukovic, aux critiques sur le Patriot Act des Français. Ici, Alain Chalvron, à la télévision, ne fait pas dans cette enquête une présentation très favorable.
Une loi qui justifie par avance tous les dérapages.
Ils sont arrivés au petit matin vers 6 heures. Ils étaient 8 ou 9 dans la pièce. Ils ont commencé à crier, à hurler, « Lève-toi, allez debout !» After that, they took me to the Après, ils m'ont emmené dans le New Jersey, à la prison de Middlesex. Et là, ils m'ont gardé pendant 8 semaines, très exactement.
8 weeks exactly. After 8 weeks, they released me.
Après ces 8 semaines, ils m'ont libéré sous caution. Mais ils ont pris mon passeport, mon permis de conduire, tout. Ils m'ont jeté à la rue, comme ça.
People are detained for months without lawyers.
Il y a des gens qui sont détenus des mois sans avocat. C'était tout simplement impensable avant. Et puis même, de toute façon, ils ont le droit d'écouter les conversations entre un avocat et son client. Et ils l'ont fait. Ils peuvent aussi vérifier dans les bibliothèques ou les librairies qui lit des livres un peu suspects. On va vraiment très loin dans l'intrusion dans la vie privée.
L'École nationale supérieure des bibliothèques de Villeurbanne a publié un livre sur le contrôle des bibliothèques. Les Français sont très sensibles à ce point. Mais je voulais insister sur le témoignage de ce Pakistanais là qu'on entendait. En France, on demande aux musulmans aujourd'hui de jouer un rôle historique dans le sauvetage de la République. Il est quand même clair que si des mesures comparables au Patriot Act étaient mises en application, ce seraient les musulmans qui seraient les premiers concernés. C'est beaucoup moins embêtant aux États-Unis vu les structures de la population.
Cette population est moins présente. C'est très circonscrit dans certaines villes, dans certains États. Il faut dire aussi qu'un grand nombre des Arabes chez nous sont chrétiens, donc ils se font plus facilement aussi dans une société qui, au départ, qui est fondamentalement aussi chrétienne. Mais il y avait des abus, hein. Il y avait des gens qui ont été détenus leurs droits ont été violés, enlevés. Mais encore une fois, c'était des cas ciblés. C'était pas général. J'entends les réactions les plus farfelues sur les ondes en France. C'est une chose de faire une analyse, comme on fait ici ce matin, cet après-midi sur le Patriot Act, mais d'entrer tout de suite dans un délire, j'ai des délires anti-américains. On dit que les États-Unis sont dans un état policier, c'est vraiment grotesque.
Alors, il est difficile de faire le point rapidement sur la législation française en la matière, parce qu'on ajouterait de la précipitation à la précipitation. 15 textes depuis 30 ans. Alors, un texte antiterroriste au mois de janvier, spécifique, dont les décrets d'application ne sont pas encore sortis, qui vient d'être voté. Et puis, un article modifié dans la loi de programmation militaire qui élargit les possibilités d'enquête sur les écoutes et les données informatiques. C'est un article modifié que défendait ainsi, avant les attentats de la semaine dernière, le député socialiste Jean-Jacques Urvoas.
Il y a 5 motifs pour justifier des écoutes téléphoniques, dont la protection du patrimoine industriel de l'État. Eh bien, nous allons de la même manière avoir accès aux données de connexion, pas au contenu. C'est là-dessus qu'il y a eu une polémique terrible. C'est qu'un certain nombre d'internautes de bonne foi ont cru que l'État allait pouvoir rentrer à l'intérieur de leur mail pour voir les données qu'ils avaient stockées. Et je redis avec la plus grande netteté que nous ne nous intéressons pas au contenu, parce que sur le plan pénal, c'est de toute façon interdit. Donc nous avons permis simplement, de manière informatique, les fadettes téléphoniques. C'est-à-dire que nous voulons
on
savoir...
une adresse IP.
Voilà. Il n'y a pas d'atteinte aux libertés parce qu'au contraire, nous venons de permettre des pratiques qui n'étaient pas encadrées. C'est-à-dire que quand il y a des moyens supplémentaires, il y a immédiatement à côté du contrôle supplémentaire. On n'a rien à craindre de ces sujets-là. Il ne faut pas imaginer qu'on est dans des culs de basse-fosse en train de faire des choses qui seraient inavouables. On n'a pas non plus de signer le Patriot Act, comme je l'ai lu parfois. Donc on n'est évidemment pas dans Big Brother et de toute façon, personne ne l'accepterait.
Ah, on n'a pas signé le Patriot Act. Mais est-ce que dans le Patriot Act, il est prévu l'accès au contenu des échanges informatiques?
C'est plus difficile. Ce qui est plus facile d'accès, ce sont tout l'ensemble des numéros de téléphone appelés pour tenter de déceler un réseau. Donc, encore une fois, surtout si un Américain est dans le coup, dans ses coups de téléphonique, il faut, et toutes les révisions de Patriot Act et les décisions des juges exigent maintenant que les services de la justice sont obligés d'aller devant le juge pour avoir un mandat pour écouter ou de lire le contenu de ces messages.
On n'est pas si loin, nous, du Patriot Act, puisque depuis un bon moment, les conversations liées au terrorisme peuvent être l'objet d'une surveillance sans mandat judiciaire et que seules les écoutes non judiciaires sont l'objet d'une autorisation par une petite commission de contrôle qui n'a pas beaucoup de moyens et qui a été mise en place après un énième scandale d'écoute téléphonique. C'était à l'Élysée en 1991. Comment interprétez-vous l'obstination de tous les hommes politiques, sauf Madame Pécresse et quelques rares exceptions, à dire on ne va pas faire le Patriot Act? Le vice-président du Front national, ce serait jouer le jeu des terroristes que de restreindre les libertés. Le Patriot Act n'a pas été efficace, a dit M. Philippot aux États-Unis.
Oh, je crois que d'une certaine façon, c'est une réaction saine dans un environnement où il y a encore une peur. Donc je crois que si une leçon à apprendre ici aux Français, c'est qu'il faut très vite étudier bien les dispositions de Patriot Act. Il faut être très attentif à la nécessité de l'État pour protéger les citoyens. Mais encore une fois, il faut être aussi très vigilant que ces dispositions ne vont pas trop loin et que ces dispositions soient appliquées et conformes à la lettre de la loi.
Vous attendiez peut-être une citation de Tocqueville, il s'abusait du pouvoir. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Mathieu Vidard, vous allez être à peu près dans la même tonalité que cette émission réalisée par Jacques Sigal avec Tristan Gratalon à la technique.
Oui, on va parler du big data prédictif dans un instant,
Qu'est-ce
Jean
que c'est le big data prédictif?
Utilisez vos données pour savoir, par exemple, ce que vous allez consommer. C'est une sorte de boule de cristal.
C'est l'anticipation. Il est 14h, vous écoutez France Inter.